vous souvenez peut-être d'elle dans La Maman et la Putain de Jean Eustache, mais aussi chez Duras, chez Arnaud Desplechin, et la voici impressionnante chez Gaspard Noé, Françoise Lebrun dans Boomerang. C'est parti. Qu'est-ce qui ne vieillit pas, ou presque pas? Je me suis fait une liste, juste pour moi. Dorian Gray, même si c'est compliqué.
Ouais.
Dracula, le petit Nicolas, il vieillit pas, lui. Tout ce qui n'est pas
Tintin.
Technologique. Ah, Tintin aussi. Ça vieillit une vitesse, ça, le technologique. Un arbre d'Amérique du Nord qui s'appelle le pin bristlecone. Sharon Stone ne vieillit pas. Le regard, qui semble souvent résister au temps. Le regard et le homard, figurez-vous, c'est un animal qui se régénère à l'envi. Deux espèces de méduses aussi qui savent à tout moment inverser le cours de leur vie. Les chevilles, les mollets, les épaules, le dos vieillissent beaucoup moins vite que la peau. Votre sourire ne vieillit pas. Et puis, le souvenir, pour moi, d'une balade en bateau, j'avais 5 ans, c'est toujours là. Les artistes qui sortent un nouvel album ne vieillissent pas, ils se renouvellent, vous savez. Les livres qui accèdent au statut de classique, eux non plus. Victor Hugo, Albert Camus, les muscles, si on les entretient, les rêves. J'ai pas d'âge quand je rêve, moi, tiens. Le cœur, la vie intérieure, ça vieillit pas. Et puis, un visage gravé sur une pellicule que l'on projette dans une salle de cinéma.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui est de celle sur qui le temps n'a pas de prise, immortalisée il y a près de 50 ans par Jean Eustache dans La Maman et la Putain. Son visage et sa voix émaillent depuis le cinéma français, chez Marguerite Duras, Guillaume Nicloux, Arnaud Desplechin. C'est dans Vortex, le nouveau film si bouleversant de Gaspard Noé, qu'on la retrouvera dès mercredi. Elle y joue le rôle d'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui glisse lentement vers sa fin. C'est une expérience de cinéma radical à couper le souffle. Bonjour Françoise Lebrun, merci beaucoup d'être avec nous.
Eh bien bonjour, Augustin Trapenard.
Qu'est-ce qui pour vous ne vieillit jamais?
La mémoire peut-être.
Et une comédienne, un comédien dont le visage est gravé sur une pellicule de cinéma?
Il y en a beaucoup, enfin, je trouve le champ est toujours très large par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on reçoit, ce qu'on vit. Donc il peut y avoir Michael Ansdal, il peut y avoir Gary Grant, il y a plein de gens dont l'image me revient selon les matins, s'il pleut, s'il fait beau. Enfin, tout ça est très, très fluide et variable. Enfin.
Vieillir, Françoise Lebrun, ouais. Quelle question est-ce que ça vous pose, à vous?
Ben, c'est comme tout dans la vie, je crois qu'il faut toujours apprendre. C'est-à-dire que quand on est petit, on apprend à marcher. Quand on est petit, on apprend à manger. Et puis, avec le temps, on a l'impression qu'on a tout ça de facile. Et puis, on se rend compte que l'âge venant, bah, il faut réapprendre tout ça. C'est un chemin dans l'autre sens. Mais il faut entretenir et apprendre.
Encore faut-il qu'on nous le permette. Dans quelle mesure le cinéma est-il un art qui autorise ses acteurs et ses actrices à vieillir?
Silence.
Éloquent.
Oui, parce que le cinéma en lui-même, je veux dire, dans le côté pratique, permet justement aux gens, quel que soit leur âge, d'être vivants. Donc ça, c'est formidable. On devient quelqu'un d'autre, enfin, on a cette échappée par rapport à son propre corps, par rapport à son propre mental. Et donc ça, c'est un phénomène de régénérescence, je trouve, tout le temps.
Pour autant, quand on vieillit, on peut être cantonné à certains types de rôles, je suppose.
Bah oui, ça, je fais plus les jeunes premières, ça, c'est sûr. Hein. En même temps, c'est même pas une question d'âge. Le cinéma amène dans des lieux inattendus. C'est-à-dire que, par exemple, je tournais dans la série Mytho avec Marina Hans et la série de Fabrice Laubert, et je me suis retrouvée une nuit vers 3h du matin à marcher dans la forêt de l'Isle-Adam. Et je me suis dit, mais attends, jamais moi-même je ne serais allé marcher à 3h du matin dans cette forêt. Enfin, donc, le cinéma ou le fait de tourner fait qu'on se retrouve dans des inattendus et que ben, l'inattendu, c'est toujours la vie quand même.
Pourquoi je vous pose la question du vieillissement? C'est parce que cette question au cinéma, elle vous intéresse depuis toujours. Il paraît que c'était le sujet d'un mémoire à Sciences Po au milieu des années 60.
Mais oui, parce que j'étais très troublée en me disant que les personnes âgées n'ont plus autour d'elles de personnes avec qui partager la mémoire. Et que ça devait être vraiment très, très douloureux de ne plus pouvoir dire « tu te souviens à ce moment-là », etc.
À quelles images est-ce que vous pensiez quand vous travailliez juste sur ce sujet?
Ben, je pense que je pensais au film de Matt Carey qui s'appelle « Place aux jeunes », qui est terrifiant, puisque ces deux personnes qui ont été placées dans des maisons différentes de retraite, je sais pas quoi, qui n'ont plus l'argent pour avoir un appartement et qui se rencontrent, retrouvent sur un banc de temps en temps et puis qui repartent chacune. Et je me dis, passer une vie entière avec quelqu'un puis se retrouver avec comme seule possibilité de lui parler en étant sur un banc dans la rue, c'est un truc horrible. Donc je crois que c'est l'horreur que je ressentais par rapport à la situation des personnes âgées qui m'avait fait toute florissante m'intéresser au sujet, quoi.
Et Vortex de Gaspard Noé, quelle image de la vieillesse est-ce qu'il propose pour vous, Françoise Lebrun ?
Moi, j'avais cette clé, si on peut dire, de la maladie de la personne. Et donc, je me suis pas posé la question tellement de quelle image de la vieillesse ça donne. C'est qu'est-ce que je peux trouver, faire pour ne jamais dénaturer cette histoire.
On parle ici, en l'occurrence, de la maladie d'Alzheimer. C'est une femme que vous jouez qui est constamment désorientée, qui perd la mémoire et qui n'arrive, pour ainsi dire, plus à parler.
Oui.
Sa voix
oui.
n'est plus qu'un souffle. Mmh. Au fond, quelle peur est-ce que ça cristallise pour vous, ce rôle ?
Ça n'a pas été ma préoccupation. Je n'ai pas fait de projection personnelle en me disant « s'il m'arrivait ça, si ça doit m'arriver, ça m'arrivera, basta ». Toute mon attention était vraiment sur l'intériorisation de ce que représente cette maladie. Après avoir lu beaucoup, regardé beaucoup de documentaires là-dessus, quelques fictions pas terribles en général, et puis l'aide de Gaspard, qui connaît bien cette maladie, donc personnellement, enfin, dont la maman était atteinte, etc., qui m'a montré des images de sa maman. Je sais que j'étais dans une sorte de bulle avec cette transformation de mon corps dans le corps de cette femme qui est malade. Donc je mangeais dans la loge, enfin je voyais quasiment personne pendant le tournage en dehors de... C'était une bulle, quoi.
Et ce souffle, justement, comment vous l'avez trouvé ?
je sais pas. je sais pas du tout. Par exemple, je sais que Gaspard m'avait demandé de venir refaire un peu de post-synchro avec effectivement la phrase qui est j'ai peur, je vois cet homme partout, qu'est-ce que c'est que cet homme, etc. Et j'ai entendu et je lui ai dit, écoute, Gaspard, non, je ne pourrais pas faire mieux. C'est-à-dire que c'était l'ensemble du tournage, de la relation avec Alex, avec Tario, c'est tout un ensemble qui fait que d'un seul coup, on ne joue pas, on est le personnage et que un souffle sort d'une certaine manière, ou un pleur, ou enfin...
Alex Lutz et Dario Argento qui partagent l'affiche avec vous dans Vortex.
Ils sont magnifiques.
De Gaspard Noé, la voix, qu'est-ce que ça représente pour une comédienne, pour la comédienne que vous êtes, Françoise Lebrun, vous qui par moment, chez Marguerite Duras notamment, qui était une de vos amies, n'avait été qu'une voix.
Ah bah oui, moi là j'ai beaucoup appris effectivement avec elle. Bah, la voix, il y a à la fois la voix consciente, et puis cette voix qu'on a à l'intérieur de soi, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis, d'un seul coup, arrive cette chose très mystérieuse et qui est réconfortante, réjouissante, enfin, de se dire « Ah, je suis aussi quelque chose d'autre dont je n'ai pas conscience. » Donc ça, c'est formidable.
Un autre en soi, en fait.
Voilà. Pardon.
Votre voix, les auditeurs de Boomerang la connaissent et j'aimerais qu'on l'entende dans ce grand monologue de La maman et la putain de Jean Eustache. Vous aviez 29 ans.
Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul ? Le sexe. Tu me baisses bien, oh, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante. La chose horrible et sordide, mais putain, quelle chose sordide et horrible. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul.
Vous savez, Françoise Lebrun, qu'on ne compte plus le nombre de fois où une comédienne a souhaité nous le lire, ce monologue, dans
mais
cette émission. Vous le connaissez encore, j'ai l'impression.
Bon, je le répète pas tous les matins, hein. mais oui, c'est l'histoire de la fameuse mémoire, hein, qui est quand même là.
Au fond, pour quelle raison ce film qui a fait scandale, hein, au moment de sa sortie, a-t-il tant marqué les esprits ?
Alors, je ne sais pas. Ce que j'ai constaté, c'est que chaque fois qu'il y a eu une sorte d'hommage à Jean Eustache, disons tous les 10 ans à peu près, donc c'était quasiment une autre génération qui arrivait, et il y avait des gens jeunes qui étaient très concernés par ça. Et je me suis dit, donc, nos personnages traversent le temps. Ouais. Et un jour, je jouais au théâtre à Toulouse, et je sors après la représentation de la pièce, et je vois devant moi un couple, et la fille avait la coiffure de Véronica, le garçon avait un grand manteau long, type dandy de Jean-Pierre, et j'ai eu envie d'aller leur taper sur l'épaule en disant, et puis je n'ai pas fait.
Leur faire un check, au
voilà.
Fond, quoi.
Non, ah ouais. Non, ça c'était avant le Covid. Mais...
Qu'est-ce qui continue de vous toucher, vous, personnellement, dans ce film, Françoise Lebrun, La maman et la putain?
C'est toujours pareil, quand on fait des films qui sont liés à des histoires de vie et d'amour, que ce soit un amour consommé, pas consommé, etc. Mais qu'il y a par exemple pour Vortel, pour moi c'est une histoire d'amour ce qui se passe dans ce film.
Ah oui, plus que jamais.
Voilà. Et dans La maman aussi. Donc je pense que c'est plus. On a dit beaucoup de choses sur La maman. Beaucoup de gens ont été frappés par ce film et j'en suis contente pour Jean. Mais je suis incapable de mettre des mots là-dessus. Je suis incapable. Je sais que quand j'ai vu pour la première fois le film, je me suis dit, mais ce film, ça va devenir un météore dans le ciel du cinéma. J'ai vraiment pensé ça tout de suite, sans logique, enfin, pas consciemment. La pensée m'est venue tout de suite.
Quelle jeune femme est-ce que vous étiez, vous, à 30 ans, à l'époque?
Je sais pas. J'étais passionnée par plein de choses. J'ai vu un nombre de films invraisemblables pendant... entre 22 et 32 à peu près, j'étais plutôt dans le monde, mais enfin dans les relations. J'ai beaucoup côtoyé les garçons des cahiers du cinéma, donc il y avait quand même cette palpitation d'intérêt fou pour le cinéma.
Vous dites les garçons des cahiers du cinéma.
Ben oui.
C'était des garçons. Ouais.
C'était majoritairement des garçons. Et c'est vrai que j'avais ma place à la Cinémathèque, j'étais dans la première partie de Chaillot, mais 2 rangs avant le passage, il y avait Rivette qui était pas loin. Enfin, c'était extrêmement vivant. Et puis les retours éventuellement à pied de Chaillot, la nuit, l'hiver, dans la neige. Enfin, non, c'était très vivant. Le bus Palladium. Enfin bon.
Mais non, c'est pas sur le sujet. Et comment vous vous êtes retrouvée sur un plateau de cinéma, Françoise Lebrun?
Tout à fait par hasard.
Ah non. Toutes les actrices me disent ça, tous les acteurs aussi.
Non, mais alors c'est vrai. Mais oui, je voyais donc les garçons des cahiers, dont Jean-Claude Biette. Et Jean-Claude Biette fait un court-métrage qui s'appelle Je cherche Jacques. Très bien. Et il me dit, est-ce que tu peux venir pour... Tu seras une jeune fille dans un dîner. Pourquoi pas. Mais tu auras une phrase, hein, c'est... Je suis étudiante en musicologie. Oui, pourquoi pas. Donc je fais ma phrase, etc. Et... Jean-Claude Biette connaissait bien Adolfo Arrieta. Et Adolfo me dit, tu peux venir faire la jeune fille morte sur mon lit, là, Hôtel des Pyrénées, dans une ancienne comédie. Je dis, oui. Tu mets la robe comme chez Jean-Claude. Hein. Je dis, d'accord. Donc je vais faire la jeune fille morte. Et puis après, il me rappelle en disant, mais elle n'est pas morte. Je dis, très bien. Alors ensuite, on s'est retrouvés à vider nos porte-monnaies pour voir qui pouvait acheter La Magnétique, qui pouvait acheter... c'était un film pas du tout produit. Enfin, c'était du comment ça s'appelle? Du sauvage, quoi.
Ah, donc ils vous ont racketté, en fait?
Tout le temps. Tout le temps dans la vie.
C'est l'histoire d'un racket, Françoise Lebrun. Pour autant, et vous le dites, vous étiez déjà mordu de cinéma, pigiste pour la revue Images et Sons, oui, de Roland Barthes, ce qui n'est pas rien, assistance réalisatrice, oui, pour Jean Eustache. Au fond, quand est-ce que le cinéma est entré dans votre vie?
Je pense que je devais avoir 3 ans.
Oh.
On m'a raconté, je me souviens pas. Hein. Donc, j'avais été emmenée voir Dumbo, l'éléphant, oui, au balcon du cinéma de la région où j'étais.
Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps?
Pas du tout. Oh. J'ai voulu franchir le balcon pour aller dans l'image.
Waouh.
Non, c'est vrai.
Ils vous emmenaient beaucoup au cinéma, vos parents?
Pas tant que ça. C'était... Mon père s'occupait d'éducation populaire... Et donc, il y avait des stages qui étaient de la Ligue de l'enseignement, le stage cinéma, etc. Donc j'ai vu là aussi pas mal de trucs, au théâtre, enfin. Et quand je, c'est pour ça que je suis arrivée à Imagesson, à cette revue qui est liée à la Ligue de l'enseignement.
C'est drôle parce que quand je vous parle, j'ai l'impression que le cinéma, ça fait vraiment partie de la vie chez vous. Et depuis toujours, vous parliez tout à l'heure de la Cinémathèque française sous l'égide d'Henri Langlois, des souvenirs, des sensations que vous gardez de ce lieu. En quoi diriez-vous qu'avec tous les films que vous avez découverts là-bas, il y aurait de quoi remplir une vie?
Ben oui. Oui, oui, et je suis très troublée parce qu'en ce moment, je sors effectivement mes archives en me disant, bon, faudrait que je fasse quelque chose avec tout ça, comme ça, ça me permettrait de déblayer les étagères.
Et comment ça, vos archives?
Toutes les notes que j'ai prises, toutes les... Enfin bon, mais pas mal d'archives.
Pour écrire des mémoires, Françoise.
Ben voilà, et je n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il y a cette phrase de Marguerite Duras qui était chez moi en exergue toujours, en disant, comment est-ce qu'on commence un livre? Et donc j'ai 3 ou 4 fausses introductions biographiques, et puis je suis tombée un jour sur cette phrase.
J'aimerais que vous nous la lisiez, cette phrase, qui est dans la vie matérielle, je crois.
C'est ça. Je n'ai pas d'histoire, de la même façon que je n'ai pas de vie. Mon histoire, elle est pulvérisée chaque jour, à chaque seconde de chaque jour, par le présent de la vie, et je n'ai aucune possibilité d'apercevoir clairement ce qu'on appelle ainsi sa vie.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette phrase?
Ben, je la remercie. Je remercie la Marguerite d'avoir écrit ça.
La Marguerite?
Oui.
Qu'est-ce que c'est la vie pour vous?
Alors, il y a différentes sortes de personnes. Il y a des personnes qui ont des désirs forts dans la vie, d'être, par exemple, patron de médecine, ou je ne sais pas quoi, ou directeur général. Et bon. Et moi, c'est vraiment, quand je disais le hasard, c'est pas une plaisanterie, hein, c'est vraiment les rencontres avec les gens, et c'est pas une coquetterie. C'est, je me dis, la vie, si j'ai la chance d'être encore un peu lucide avant de la perdre, ce sera de me retourner et de me dire, bon, ben voilà, ça, ça a été ma vie.
Au risque du racket.
Oui, oui.
La vie, elle est faite de voix aussi, et de voix comme celle de Marguerite Duras. Justement, cette voix, quand est-ce qu'elle a commencé à vous accompagner, Françoise Lebrun?
Dans le fameux film d'Arietta, d'Adolfo, puisqu'on a tourné rue Saint-Benoît chez Marguerite, et ensuite à Naufles. Voilà, et puis après elle m'a demandé de faire une des voix dans La Femme du Gange. D'ailleurs, elle me reprenait incessamment en me disant « Tu ne sais pas dire Marguerite. Répète Marguerite. Hein, » Je dis « Marguerite. Non, le « Dieu n'est pas bien. Marguerite. » Voilà, donc je disais « Oui. » Et puis,
vous avez fini par savoir dire le gueux.
Bah, je suis pas sûre. Non, non, puis elle m'a fait un cadeau magnifique. C'était un jour, à la fin de sa vie. J'étais, moi, très déprimée, et je vais manger dans un restaurant italien, rue Léopold Robert, qui était tout près de chez moi à l'époque. Et j'entre dans le restaurant, et je vois Marguerite, qui était là, avec Yann Andrea, et un ami de Yann, j'imagine. Et je vais vers Marguerite en lui disant quasiment, je suis bonjour. Elle me dit, mais écoute, je te reconnais, enfin, tu es toujours belle. Et d'un seul coup, c'est comme si elle me redonnait la vie. Ça a été magnifique, parce que moi je me sentais tellement une petite flaque par terre, et d'un seul coup elle me disait, mais tu es belle, tu es belle. Et elle était magnifique, on aurait dit un vieil indien, parcheminé, elle était sublime, et sublime, bien sûr. Et
forcément.
Forcément, sublime. Non, non, donc voilà, c'est... mais moi je sais pas faire la cour, et Marguerite avait besoin d'une cour. Donc on s'est vu pendant un moment, et puis après, je sais pas.
Mais c'est intéressant ce que vous dites au regard de ce que vous nous avez dit précédemment sur la façon de prononcer son nom. Qu'est-ce que vous avez compris à ses côtés de ce que c'était que de dire un texte, Françoise Lebrun?
Oui, ce que j'ai compris là, c'est comment laisser un texte passer à travers soi.
Ça veut dire quoi? D'où viennent les mots?
Ben je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a cette chose... C'est pour ça qu'il y a tant de silence. J'avais vu une représentation d'une pièce jaune de soleil de Marguerite jouer sans la pulsion interne de Marguerite. Et c'était insupportable. Le sens chez Marguerite vient, enfin, des textes, on sent tellement que c'est tout un travail, non pas juste du conscient, mais du corps... Et c'est ce que j'ai ressenti avec elle et Claude Régis, enfin, aussi.
Ça veut dire qu'incarner un personnage, c'est aussi peut-être d'abord habiter ses silences?
Oui, il y a ça, il y a ça. Et puis, ne pas vouloir gérer, ne pas vouloir diriger. Mais digérer. Ouais, c'est ça, mais digérer. Donc c'est ça que j'ai appris. Et d'ailleurs après on m'a dit mais dans d'autres films, mais parle plus vite, parle pas comme chez Duras. Enfin bon, voilà.
On va reparler ensemble de silence, de voix, juste après Françoise Hardy quand même, mon ami La Rose, en 1965, qui ouvre, qui traverse, qui habite le film de Gaspard Noé, Vortex. Vous êtes sur France Inter avec Françoise Lebrun, vous écoutez Boomerang, évidemment.
On est bien peu de choses, et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie La Rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie La Rose qui l'a dit hier matin.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
On est quelque part entre la mère supérieure, la psychanalyste jungienne et Madame la juge. En tout cas, une figure d'autorité et de bienveillance quand même. Le regard scanner sous sa paupière, empathie, avec son châle vert ce matin, qu'elle remonte ici et là, dans un geste tout en élégance, la comédienne Françoise Lebrun, invitée de Boomerang, pour parler de son rôle dans Vortex de Gaspard Noé, un rôle qui repose en grande partie sur de l'improvisation. Tout le contraire de ce que vous demandez, je suppose, Jean Eustache. Improviser, en quoi c'est quelque chose qui se prépare? Je me suis demandé.
Oui, c'est ça, parce que Gaspard dit souvent ça a été improvisé. Je dis non, c'est pas vrai. Arrête de dire ça, c'est pas vrai. Il a toujours donné d'abord un cadre à chaque séquence, c'est-à-dire on avait un chemin vers lequel aller. Et puis, disons que moi j'étais privilégiée sur l'histoire de l'improvisation, parce que théoriquement je ne parlais pas beaucoup. Donc c'est plutôt les autres qui ont fait de l'improvisation que moi. Hein.
Ah, on peut improviser avec son corps, non?
Ben voilà, c'est ça, mais pas verbalement, quoi. Ouais. Et non, je pense qu'il dirigeait, en dehors de cadrer très précisément l'image. Il a pu m'énerver, je lui ai dit. Il bougeait le petit rideau pour que la lumière arrive.
Ah, c'est un formaliste, hein.
Ah ouais, ouais, c'est un fils de peintre, hein. Et je lui ai dit, arrête, Gaspard, mais je t'en prie, arrête. On est prêt, là, on est prêt. Et puis, non, il y avait quand même suffisamment de clés données pour que ce ne soit pas de l'improvisation, n'importe quoi.
Qu'est-ce que ce serait, l'improvisation? Une disposition, en fait, le fait de dire oui, d'accepter le jeu des autres autour?
Oui, dans ce cas-là, oui. On peut dire dans ce cas-là, absolument. Pour le personnage dans lequel j'étais, qui était toujours en réception sensible de ce qui était émis par les autres.
Alors comment ça s'exprime, ça? Par le corps, Françoise Lebrun, si on ne parle pas, quel corps est-ce que vous lui avez composé à cette femme?
J'ai pas fait une composition, je dirais, ça s'impose de soi. Je veux dire, il n'y a pas eu un... Je suis pas restée 15 jours chez moi à me dire, alors elle va marcher de telle manière, elle va faire ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc non, ça a été la disponibilité absolue à tout ce qui pouvait se passer. Et à la fois ce que j'imaginais qui pouvait se passer dans la tête de cette femme. Par exemple, j'ai les fleurs, quand je vais planter un bouquet de fleurs dans une jardinière, etc. Et parce qu'elle est jalouse en même temps. Je me dis, bon, enfin, toutes ces données du scénario qui étaient réutilisées par rapport à ce filtre de c'est peut-être un moment, une maladie, où toutes les barrières tombent.
C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on croit en un personnage, qu'on y croit au point de penser que le comédien et le personnage ne font qu'un? Est-ce que c'est ça que vous nous décrivez?
Ben ça, c'est les acteurs que j'aime. C'est ces acteurs qui ne donnent pas le sentiment d'avoir préparé. Bon. Moi, il y a un film que j'adore, qui est Elle et lui, de Macaré, avec Gary Grant et Deborah Kerr, qui sont quand même de grands acteurs comédiens formés par Hollywood et tout ça. Et on a chaque fois l'impression d'une invention sur l'instant de ce qui est en train de se passer. Et c'est une jubilation absolue de voir ça.
Dans le film, on vous voit déambuler dans un appartement plein à craquer de livres.
Oui.
Quelle place les livres occupent-ils dans votre vie, Françoise Lebrun?
Oh ben, une belle place, je ne sais plus où les mettre. Et puis,
ça prend de la place.
Ça prend de la place. Non, non, c'est très bien dans le film, parce que le vendredi, je disais à l'accessoiriste, bon, je prends tel livre et tel livre et tel livre, je les ramène lundi.
Vous avez pris quoi?
Alors justement, des choses que j'aurais pas achetées, auxquelles je n'avais pas pensé. Les mémoires de Louise de Villemorin, par exemple.
Hein?
Et donc j'étais très contente de lire ça, enfin voilà, donc ça a été un... Non, les livres...
Ils vous ont toujours accompagné, il paraît, depuis le père Castor.
Oui, Mishta.
Ça vous a beaucoup marqué enfant, Françoise Lebrun.
Ben, les livres n'étaient pas si... On n'avait pas des livres si facilement. C'est après les années 70 qu'est arrivée l'école des loisirs et tout ça, où il y avait vraiment des livres pour enfants, beaucoup. Tandis que là, avoir un livre... C'était vraiment impressionnant.
De quoi vous rêviez quand vous étiez petite?
D'être clown.
C'est vrai?
Oui.
Elle vous finit par le devenir?
Ben, je sais pas.
Pourquoi clown?
Je ne sais pas. J'ai repensé à ça l'autre jour en me disant que je me souvenais, mais j'avais pas de projection par rapport à ma vie. ça a été. Je me souviens, j'étais sur le lit, j'étais assise sur un lit et puis je jouais. J'imaginais que j'avais un nez rouge et que je faisais rire tout le monde. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Hein.
Ah, si.
Oui, mais bon.
Vous avez pu être drôle. Vous êtes drôle aujourd'hui, vous êtes drôle ce matin.
Ah, bah merci.
Est-ce que vous rêviez de musique aussi, Françoise Lebrun, comme Marguerite Duras?
Oui, ça j'étais. Ça j'ai beaucoup aimé, oui.
Que peut la musique que ne pourront jamais les mots?
Bah, je vais être un peu radicale. Je peux mettre un fond sonore avec des mots. Je peux faire autre chose. Je mets de la musique, je ne peux pas.
On en écoute ensemble?
Oh oui.
Oh.
Quel bonheur, quel bonheur. Je vais pleurer.
C'est vrai que vous êtes émue?
Oh oui.
Là. C'est un extrait des variations Goldberg de Bach par Glenn Gould en 1955. Quelles émotions, quels souvenirs? Est-ce que ça fait remonter, Françoise Lebrun?
Bon, je fais du piano, je ne suis pas très douée, mais j'ai beaucoup déchiffré Bach. Parce que je trouve ça toujours très, très bien, parce que ce soit les fugues par exemple, ça part un peu dans tous les sens apparemment. Puis la dernière mesure ou l'avant-dernière mesure, tout se réaccorde. Et je trouve ça, chaque fois, je suis émerveillée. Et puis, Gould, vraiment, c'est une personne que je regrette de ne pas avoir rencontrée. D'abord parce qu'il n'est pas comme il faut. Et j'aime bien les gens qui ne sont pas comme il faut.
Vous n'êtes pas comme il faut, vous?
Moi, j'espère bien. Mais non. Donc, c'est vrai que j'ai regardé les films de Mont-Saint-Jean sur lui. Et j'étais très bouleversée par... J'ai retrouvé aussi le disque de lui, petit garçon, jouant. Parce qu'il a démarré très tôt à faire des disques.
Mais quand vous dites que vous le déchiffriez, oui. Bach, ça veut dire que vous lisiez les partitions en même temps qu'elles étaient jouées par Glenn Gould?
Ça, j'ai fait ça aussi, parce que je me disais, Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc je regardais, puisque moi j'avais déjà déchiffré au piano tout ça. Je me dis, ah oui, ah, ben là il fait un petit zigoubou, et en plus là, je n'avais pas prévu, je ne voyais pas dans ma partition. Et puis, bon, il a ralenti le rythme, ah c'est pas mal. Enfin bon, vraiment, il y avait une
partition. Parfois ça ne se joue qu'un zigouigoui.
Ben voilà, donc, et puis j'étais très touchée par sa façon d'être, son corps, quand il était sur sa petite chaise, courbé sur le piano, les mains qui arrivent à peine au clavier, et puis qui se met à chanter avec.
Vous vous rendez compte que là, vous parlez d'interprétation?
C'est vrai.
Ce que vous êtes, interprète.
C'est vrai.
Merci infiniment, Françoise Lebrun, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Vortex de Gaspard Noé avec Dario Argento et Alex Lutz sort mercredi et que c'est un film absolument bouleversant et passionnant aussi d'un point de vue cinématographique. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang cette semaine. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Victor Candelaft, Pierre Démé et Jean-Baptiste Dibert. Tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Wet Dream,